Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
J'espère qu'en recours, vous allez dire que sur Netflix, il y a la série de France 2, Les petites affaires meurtres d'Agatha Christie.
Oui, les petits meurtres d'Agatha Christie.
Voilà,
ouais, bien sûr,
ça a l'air sympa. C'est notre recours.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, autant béni et maudit à la fois du passage de l'enfance à l'adolescence, n'aimait rien tant que de se réfugier dans les univers imaginaires que lui offrait la lecture et parmi eux celui dans lequel évoluait un détective belge bedonnant d'une époque révolue, imaginé par une bourgeoise anglaise aux idées débordantes. Hercule Poirot et Agatha Christie furent pour des générations entières des compagnons de choix. La preuve, ils vivent encore puisque le cinéma nous les ramène avec Le Crime de l'Orient Express dont on va causer avec les deux plus fins limiers que la critique mondiale ait porté. Daniel Andreev, salut Daniel.
Élémentaire, mon cher Thomas.
Magnifique, salut Stéphane Moïsakis.
Salut Thomas.
Ah voilà, tu t'as pas fait dans le.
Bah, parce qu'il m'a complètement déboussolé, parce qu'il raconte n'importe quoi. Ouais, tu sais, c'est des Anglais, donc allez hop.
C'est pas grave. Je salue également le public qui nous accompagne ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 110, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Le Crime de l'Orient Express. Le titre est assez transparent quant à l'histoire qu'il recèle. Nous sommes donc à bord de l'Orient Express, aux côtés d'Hercule Poirot, en route pour Londres, lorsqu'un passager, un Américain, Samuel Ratchett, est assassiné. Et à la demande du directeur de la ligne, qui est un de ses amis, il va enquêter. Hercule est tenté de savoir pourquoi et surtout qui des passagers a commis ce crime.
Would you mind if I join you?
You're a world famous detective, Hercule Poirot. Cannot trust a one. Another one?
Alors c'est pas la première fois que le roman d'Agatha Christie est adapté sur grand ou petit écran. Au cinéma, il y a eu la version qu'on a tirée Sidney Lumet dans les années 70 avec Albert Finney, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Ingrid Bergman, Jean-Pierre Cassel ou Lorraine Bacall. Et oui, c'était quand même.
Non, mais Sidney Lumet et Sean Connery quoi.
J'ai dit Sean. Okay. Ouais. Ouais, ça va. Tu vois, c'est pas toi. Putain, qui vas foutre de ma gueule de mon accent quand même. C'est pas toi, Stéphane.
Vas-y.
Voilà, donc un casting assez impressionnant pour Sidney Lumet. Comment tu dis Lumet?
Lumet.
On est en France, monsieur. Tu m'emmerdes. Voilà, Kenneth Branagh qui se colle à la réalisation de cette nouvelle adaptation n'avait donc pas le choix, c'était un casting 4 étoiles ou rien, et donc outre lui-même dans le rôle d'Hercule Poirot, tant qu'à faire, il a choisi pour l'accompagner Johnny Depp, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench ou encore Daisy Ridley qu'on avait découvert évidemment dans Star Wars épisode 7. Tout cela vous a-t-il convaincu, messieurs? Daniel?
Eh bien écoute, je me posais la question en sortant du film, à qui s'adresse cette version-là, puisque c'est clairement, il a respecté le bouquin dans ses grandes lignes, c'est-à-dire il y a des petites variations, le début par exemple ne se passe pas à Jérusalem dans le bouquin, là il se passe...
Non, ça se passe en Syrie dans le bouquin.
Et là c'est en... direct sur le mur des lamentations, ce qui donne un petit côté Assassin's Creed au début. Je me suis dit, merde, avec toutes ces 3D là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il suit à peu près strictement la problématique du livre, le huis clos dans la neige, le train paralysé. Et du coup, en fait, c'est juste une version updatée pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont soit la flemme de lire le bouquin, soit la flemme de voir le film de Lumet. Donc du coup, c'est la mauvaise problématique de faire un film, en fait. C'est à quoi ça sert alors que ça devrait juste, le film devrait juste se suffire à lui-même. Quant au film, on va y revenir après, mais j'ai vraiment eu beaucoup de frustration parce que j'ai l'impression qu'il a essayé des petites pistes personnelles et alors ça allait, il y avait des petites idées et il n'en fait absolument rien. Et je pense par exemple ils essayent de donner une background story à Hercule Poirot qui n'est pas dans le bouquin. Il regarde le portrait de sa femme. Enfin vraiment il y a tout un truc sur les. On aurait pu penser qu'il y aurait un flashback Hercule Poirot Origins. On n'y est pas arrivé et il y a beaucoup de frustration. J'ai eu aussi un peu de mal avec l'acting de Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot. Alors je me suis demandé
juste dans le rôle d'Hercule Poirot en général.
Alors justement, je me suis demandé où est-ce qu'on se situe dans le Kenneth Branaghisme.
Il est souvent à 10 sur 10 hein, sur l'échelle du Kenneth Branaghisme.
Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais un bon client de ses films. J'ai vu La Flûte Enchantée en version longue. J'ai vu Henry V Fifth en version longue.
Ah ouais.
Ah non, je suis un sérieux.
Un gros pervers en fait.
Mais je suis pas satisfait tout le temps.
Ah oui.
Et c'est le seul réalisateur et acteur dans lequel je lui accepte quelques pompiérismes. Et là, il y en a beaucoup. Et le plus gros des pompiérismes, à mon avis, là, c'est sa moustache.
C'est ce que j'allais dire.
La moustache, putain, il a une fausse moustache. C'est pas ta jolie barbe soyeuse.
C'est la moustache d'Henri Cavill, ce qui paraît. Enfin, j'ai cru entendre ça, mais c'était pas ça.
C'est
recasté.
Elle a été recastée.
C'est une moustache version longue. Et elle est hypnotique en fait. Elle joue plus la comédie que lui-même.
Et pourtant, Dieu sait qu'il joue.
Ouais, non. Mais alors, du coup, t'es hypnotisé par la moustache. Et ça devient même un truc récurrent en fait. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, et comme c'est le personnage central. Et il porte même une espèce de postiche à moustache pour dormir la nuit, comme les enfants quand ils mettent des appareils pendant la nuit. Ouais, donc du coup, je suis hypnotisé par toutes les mauvaises choses de ce film, et du coup, l'expérience n'est pas sortie, je suis pas sorti 100% satisfait.
Stéphane, satisfait, remboursé?
Pas vraiment satisfait. Non, mais moi, j'aime pas trop le cinéma de Kenneth Branagh. Le pompiérisme dont il parle, c'est pour moi, je vois que ça en fait dans son cinéma. Donc le truc, c'est que. Alors effectivement, il y a son interprétation.
C'est pas Baz Luhrmann non plus.
Non, mais bon.
Heureusement.
Merci les gars, j'attendais ça.
Le truc, c'est que ce jeu là déjà, bon, t'en as un peu parlé, mais on va évacuer vite fait le problème de Kenneth Branagh dans ce rôle-là, c'est déjà qu'il pense qu'il a les épaules de pour le jouer. Et le problème, c'est que, bah, en gros, alors, je pense en plus pour nous francophones, c'est encore pire, quoi. Mais en gros, c'est un croisement entre Peter Sellers dans La Panthère Rose, les Monty Python qui font les Français et Jean-Claude Van Damme en gros quoi. Donc le truc c'est que c'est trois trucs bien mais pas quand tu les combines je pense.
C'est ça,
vois,
en fait.
Voilà, ouais. Dans Kenneth Branagh en plus tu vois ouais. Donc voilà avec cette moustache,
avec sa moustache.
Et avec voilà et du coup en fait tu te retrouves avec des oui monsieur c'est cela monsieur oui être comme ça donc bon, évidemment ça marche pas toujours bien mais bon ça après à la limite c'est pas super grave parce que si j'arrive à faire abstraction dans un film comme The Walk où les mecs parlent français comme des oui. Vaches américaines, je peux faire ça avec Kenneth Branagh.
Et peut-être en VF, peut-être qu'ils ont inversé et là ça devient presque
il a un accent anglais. un accent belge, il faut un accent belge parce qu'il est belge quoi. Mais le truc en fait c'est que alors moi j'ai grandi en lisant Agatha Christie. Et je sais que ça
toi
passe.
Moi, mec. Toi ouais, moi.
Voilà, ouais, représente. Agatha Christie représente. Et le truc, c'est que en fait, je sais qu'aujourd'hui, c'est considéré comme quelque chose d'un peu suranné. Enfin, je veux dire, c'est un classique que les enfants peuvent lire éventuellement, même si c'était pas destiné aux enfants dans les années 30, quoi. Et après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a inventé le woodenite à proprement parler, inventé le genre, mais en tout cas, elle l'a clairement popularisé.
Oui.
Et mine de rien, en revoyant en voyant ce film-là, je me suis dit, ah, il y a quand même une sophistication qui existait en fait, qui était là et qui est pas du tout je trouve prise en compte par la mise en scène justement de Branagh. Il y a une espèce de grandiloquence en fait dans la mise en scène d'essayer de faire quelque chose d'épique avec ce qui devrait être vraiment un huis clos en gros qui fonctionne pas en fait. Du coup tu te retrouves avec des trains en numérique tu vois, tu te retrouves avec des superbes vistas etc etc mais
c'est transpersonnage apparemment
voilà mais dès qu'il faut traiter le jeu des indices, dès qu'il faut traiter ce genre de choses en fait il fait plus rien en fait. Et ça c'est extrêmement frustrant du coup je trouve parce que il y a une vraie virtuosité je trouve dans l'écriture de peut-être pas forcément dans le crime de l'Orient Express, moi je pense surtout à Dip Tinègre
oui.
Qui est vraiment je pense son meilleur livre que j'ai pu lire et le truc c'est qu'il y a une virtuosité là-dedans qui du coup en fait est malmenée par la propre virtuosité de Kenneth Branagh. Et du coup ça annule un peu ce truc là. Après le film en soi effectivement comme disait Daniel le truc c'est que en fait à qui il s'adresse, c'est-à-dire qu'il y a cette logique comme la logique ancienne, t'as cité toutes les stars qui étaient dans le film original qui est un peu, c'est un peu la même chose. Alors là on va voir Johnny Depp, on va voir Michel Pfeiffer, on va voir tous ces gens là Judi Dench etc etc et ça fait casting riche quoi, ça oui. Fait voilà, et je pense que c'est ce qui participe
4 étoiles multigénérationnelles
voilà ouais. c'est ce qui participe aussi du succès du film aujourd'hui, c'est que d'un seul coup il y a un vrai ensemble que seul je pense un réalisateur aujourd'hui, un réalisateur acteur comme Kenneth Branagh oui. Pouvait vraiment se permettre parce que d'un seul coup tous ces acteurs savent qu'ils vont venir avoir leur petit moment. Et voilà, ils ont leur petit moment. Donc c'est un gros film de cabot. comment dire, il y a pas que Hercule Poirot, il y a tous les autres acteurs qui viennent faire leur petite tambouille. Et puis
tu disais,
tu sais qu'en ayant un casting comme ça, c'est pas comme dans les années 70 ou 80 où d'un seul coup en fait avoir ce casting là ça pouvait représenter quelque chose. Là l'idée c'est qu'on sait qu'ils vont forcément avoir leur beau rôle en fait. Oui. Et du coup c'est pareil, je trouve que ça annule un peu le truc. Il y a un point qui est intéressant dans le film et je me suis posé cette question, je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait vraiment réadapter Agatha Christie. Et le plot central, en fait, l'idée, en fait, que le type qui a été assassiné, enfin, qui est interprété par Johnny Depp, est au cœur d'un enlèvement et qu'il a tué une petite fille. C'est un vrai crime crapuleux qui, aujourd'hui, je pense, en fait, dans une adaptation, mériterait d'être traité à la hauteur de du côté crapuleux du crime. C'est-à-dire comment expliquer? Peut-être qu'en fait, remettre un tout petit peu Agatha Christie au goût du jour, c'est vraiment faire ressortir ce qui pouvait passer pour quelque chose de noir et sordide dans les années 30 et de le vraiment mettre ça au goût du jour. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils font.
Et puis tu dis un truc sur les romans de Christie. Celui-là, en l'occurrence, c'est un bouquin qui n'est pas du tout visuel en fait. Celui qui aurait plutôt Mort sur le Nil aurait été un film beaucoup plus intéressant. Enfin. Point de vue décor, mais évidemment, point de vue tout ce qui se passe dedans. Et là, c'est vraiment le huis clos, et du coup, c'est ce qui donne le cabotinage. Et du coup, j'ai des frustrations parce qu'il y a des choses qui ont été vaguement essayées. Il y a un moment où il y a la thématique de l'ethnie, un moment qui arrive sur le tapis. Et du coup, je me suis dit, ils vont en faire quelque chose, ça va aller quelque part, ils en font absolument rien. Comme les origines d'Hercule Poirot, ils l'ont écarté très très vite. Il y a plusieurs fois, ça revient. Et du coup, tu n'as que frustration parce que du coup, tu vois Judith Dench qui joue la Ruskov. De manière un peu fatigante, j'ai envie de dire.
C'est un problème, hein, quand même. C'est un problème. C'est un problème récurrent. Tu le perds, c'est comme moi avec le français, quoi.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Toujours les Russes, quoi. Non. Hein? Non, pas un peu russe, Andreïev.
Guilty as charge. mais du coup, ça fait une adaptation bizarre et surtout Kenneth Branagh se garde le baroque de cette adaptation. Et alors là, ça spoiler alerte, il y a des scènes d'action. Ce qui n'y a pas du tout dans le bouquin en fait.
Poirot ne fait pas de scène d'action.
Dès la première scène, il fait une espèce de plantée de bâton à décaler dans le temps. Et là, il y a une scène de baston sur le pont. Enfin, vraiment, c'est.
Ouais, mais ça, c'est son cinéma. Dès qu'il aborde, on va dire l'entertainment entre guillemets, c'est ça son cinéma. Hein. C'est-à-dire que un type comme Kenneth Branagh, qui a quand même à la base un gros parcours
shakespearien,
de théâtre, etc., on pourrait penser qu'il allait s'accorder à ce genre de choses. Quand il fait de l'entertainment, mais par exemple, tu pourrais penser qu'il est intéressé par chez Tom Clancy quand il a adapté. Comment ça s'appelait, Jack Ryan, parce que c'est lui, hein, faut pas l'oublier, ce film pas possible. Hein.
Tout le monde parle de Thor, il a fait Jack Ryan. Voilà,
en fait, il te fait un film qui est bas du front avec des scènes d'action, alors que moi j'aurais pensé que justement c'est tout le jargon et toute la diplomatie inter-agence en fait qui l'aurait pu l'intéresser dans ce genre de cas et pas du tout. Pareil avec Frankenstein, c'est bourré de scènes d'action complètement débiles au milieu de ce film.
Tu t'attendais à ce que ce soit le roman, le côté gothique justement très dramatique du roman.
C'est même plus dramatique là.
Je sais pas si vous avez vu Sa Flûte Enchantée, Sa Flûte Enchantée où ça fait des saltos. C'est audacieux quand même.
Donc voilà, c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que je pense que c'est un type qui vient de, qui par son background vient de, il pourrait avoir, ça pourrait être des forces pour lui. Oui. Et en fait, il les met totalement de côté pour essayer de démontrer qu'il est absolument un cinéaste visuel engagé, qui cite Hitchcock, qui cite machin. Là, t'as carrément des plans qui sortent de Brian De Palma, mais qui ont rien à foutre là, hein, où il suit les personnages du haut du truc, et du coup, si t'as pas trop imprimé qui sont les personnages, à part Hercule Poirot évidemment. Tu sais pas à qui il parle, tu vois. Et c'est d'un seul coup, c'est quand t'as vraiment le contre-champ, c'est que d'un seul coup, tu te rends compte qu'il est en train de. Ah, il parle à ce personnage, d'accord. Et voilà, en fait, il y a plein de moments comme ça, complètement. Enfin, de la mise en scène qui te sort complètement du film, quoi.
C'est clairement un cas de soit pas assez, soit trop. Voilà, ils auraient. Alors, je demande pas à ce que ça soit Sherlock Holmes qui fait du Wing Chun avec. Sur le Big Ben, enfin, tu vois, comme les adaptations de Ritchie.
on n'est pas obligé d'aller dans ces extrémités-là, quoi. Mais il y a un moment.
Ils ont quand même fait deux, hein.
Oui, oui. Et il parle de faire un 3, tu sais.
Bien sûr.
Tant qu'il sait faire du Wing Chun, Robert Downey. Non, il y a clairement un problème d'engagement, en fait, dans son cinéma. Et soit il fait un peu de la bouillabaisse et il laisse ses acteurs faire leur propre cinéma. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des petits moments, des tout petits moments d'envolée.
Ouais, puis il y a cette aussi. Alors, l'autre truc, c'est que là où c'est pas très fin, comme film, en fait, c'est qu'ils se sentent obligés d'expliquer à quel point Hercule Poirot est vraiment très intelligent. Donc déjà, lui, il le dit tout le temps. Ensuite, il le répète tout le temps avec quelques scènes.
Et ensuite,
tous les autres persos lui répètent aussi. Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent.
C'est comme s'il avait fait Sherlock Holmes qui disait vous êtes le plus grand détective de tous les temps. Batman, vous êtes le plus grand détective de tout le temps. Et lui, il s'est dit putain, Hercule Poirot, c'est le plus grand détective de tout le temps. On va le montrer, quoi.
Je pense que c'est son approche. Et le truc, c'est que du coup, à un moment donné, c'est pareil. Ça te sort complètement de l'intelligence du personnage. Parce que si on est obligé de te répéter que le personnage est intelligent, au bout d'un moment, tu vas finir par te dire bon, vraiment, parce que. Parce qu'il
montre plus,
qu'il
est maniaque que intelligent, en fait, dans le film.
Il a besoin d'un équilibre, en fait.
Quand on lui sert des œufs, il a besoin d'avoir les œufs à même hauteur, il a besoin que la cravate soit.
C'est la balance, quoi. Voilà. C'est la balance du.
Et justice.
Du il marche de la merde des deux pieds, voilà, littéralement.
C'est beau. Ça résume un peu le film, quelque part.
Non. Le pire, c'est que c'est même pas vraiment un mauvais film en soi. Hein. C'est-à-dire que, en gros, je pense que pour le coup, j'ai été plus, diverti par ça que Justice League. Si même si les films n'ont rien à voir. Mais le truc, c'est surtout en fait un coup pour rien, parce que effectivement, le Lumette fonctionne mieux. Maintient toujours sa qualité, plus classe, je trouve, que celui-là, quoi. Mieux servi par ses acteurs. Et voilà, donc c'est ce qui est problématique. Et là, tu parlais de Mort sur le Nil, mais ils l'annoncent déjà plus ou moins dans la scène finale.
Ils sont dans l'avion. Là.
Et ils l'ont annoncé parce que le film marche plutôt bien. Ils franchisent le truc, quoi. C'est ça leur logique. Quoi.
Non, mais c'est le Poirotverse.
Ouais, il va y avoir un Poirotverse.
Mais il existe déjà, c'est ça le truc.
Oui, c'est vrai qu'il existe déjà.
Du coup, comment ils vont appeler Deep Tinaigre à l'export, ça va être intéressant.
Ça va être intéressant, c'est clair. Avant de refermer cette émission, messieurs, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations. On peut rester dans l'univers d'Agatha Christie, mais comme d'habitude, vous êtes totalement libre, Stéphane.
Est-ce que tu as déjà fait une partie de Cluedo?
Bah oui.
Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà vu le film Cluedo?
Ah bah non.
Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est l'écriture et le style d'Agatha Christie a quand même créé, beaucoup de films qui ont suivi derrière. Ouais. Je veux dire, par exemple, à mon sens, un film comme Une Joie Suspecte n'existerait pas sans Agatha Christie. Oui. Quoi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça crée des styles de jeu, en fait. C'est-à-dire que ça crée le Cluedo, ça crée des point and click et ce genre de choses, en fait. Donc c'est là où il y a une certaine pérennité, je trouve, dans son écriture et dans son fonctionnement. Voilà. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un espèce de truc où le Cluedo est clairement inspiré jusque dans la représentation même des personnages, en fait, par Agatha Christie. Du coup, voir un film adapté du Cluedo, je crois que c'est Jonathan Lynn qui l'avait réalisé dans les années 80. Alors je me rappelle plus du cast. Hein. C'est assez, c'est une expérience. C'est pas, enfin, si t'as déjà fait une partie de Cluedo, ça peut pas fonctionner. Voilà. Mais donc ça fait partie de ces films en fait qui.
Il y a vraiment un personnage qui s'appelle le Colonel Moutarde ou pas?
Je crois. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'est sûr qu'il y a le chandelier et maître d'hôtel. Mais le truc, c'est que, en fait, voilà, c'est vraiment une adaptation littérale. Disons que c'est raté, en tant que soi, mais c'est vraiment une curiosité à voir, quoi.
Il y a Tim Curry dans Madeleine Kahn.
Je l'ai vu,
Il y a effectivement le Colonel
Moutarde. Il y a un côté pastiche, clairement, du truc.
Il y a Christopher Lloyd qui joue le professeur Violet.
Écoute, moi je l'ai vu quand j'avais 15 ans, donc je m'en rappelle plus trop.
Le Colonel Moutarde est joué par Martin Mull, je sais pas qui c'est. Mais bon, d'accord, ok. Merci,
voilà.
Merci Stéphane.
T'en prie,
beau cadeau pour Noël.
C'est pour Hervo qui voit pas de film.
C'est pour Hervo qui voit pas de film. C'est ça. Daniel.
Alors je sais qu'Hervo regarde les séries, il regarde des séries de qualité.
Hervo étant Alexandre Hervo, notre camarade qui est présent dans la salle, dont on se moque beaucoup.
Non, pas du tout, il y a des bières qui l'attendent. Moi je suis très fan et je suis en train de me les remater en ce moment de Columbo. Columbo, j'adore les whodunits, j'adore la structure des whodunits et j'adore qu'en plus quand c'est tenu par des acteurs, la structure de Columbo est complètement différente puisque en fait tu vois le meurtre meurtre au début, et Columbo, bah, en fait, il se fait ami avec le mec qui l'a tué, et en fait, il explique au fur et à mesure des épisodes la logique de, bah, que l'assassin et le mec, il essaye de, au début, il est ami, et puis ensuite, le mec, il commence à être un peu irrité parce que Columbo, il voit clair. Et j'adore c'est des duels d'acteurs, en fait, parce que Peter Falk, il tient le truc. Et j'ai regardé en particulier la saison 3, je recommande la saison 3, donc c'est 74. Et c'est vraiment pour moi le quintessence de Columbo. Il y a vraiment les meilleurs épisodes, il y a vraiment des guests de qualité. C'est ça qui est important aussi dans Columbo. Il y a eu Leonard Nimoy, on se souvient, il y a Martin Sheen. Mais celle-là, dans la saison 3, en plus, il y a l'épisode de Johnny Cash qui est extraordinaire. Alors, bien sûr, pour se les procurer, c'est un peu le méandre des DVD, puisque les droits, je crois que c'est encore TF1 qui est. Enfin, je sais pas exactement
si. Diffusé sur TV Braise, notamment.
C'est sur TV Braise, tu confirmes?
TV Braise, ouais, tout à fait. Ouais.
C'est, on peut la voir avec le.
T'es breton? Non, alors tu l'auras pas.
Bon, je suis aussi barbu
que toi. C'est juste pour nous. C'est que pour nous.
Voilà. Bah écoutez, Columbo est diffusé en DVD ou sur TV Brest. Donc, la saison 3 en particulier, que vraiment j'adore. Et c'est vraiment un exemple de, avec très peu de moyens, faire confiance à ses acteurs, une réalisation économique, mais parfaite. J'adore Columbo. Je recommande Columbo de toute mon âme.
D'accord, très bien. Cet hommage vibrant à Peter Falk ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Daniel. Merci. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, d'ailleurs. Merci à Jules, à la technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir aussi nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.